Radio Okapi.
Oxfam s'active contre le monkeypox. La Confédération se lance dans la sensibilisation à l'hygiène et à la prévention ainsi que dans la préparation des institutions de santé à l'Équateur, la province la plus touchée par cette maladie. Environ 1500 familles de déplacés ont bénéficié des abris dans le cadre de projets solutions durables, révélation du sous-bureau de Ochaonitori hier vendredi en marge de la journée de l'aide humanitaire. L'invité de la rédaction, c'est Niembo Katansi Taylor, administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Kalemi. Il nous parlera des conséquences de la coupure du courant de la SNEL sur le fonctionnement de cette structure médicale et de sa morgue. Bonjour à tous. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Harare au Zimbabwe hier vendredi pour prendre part au 44e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui s'ouvre ce samedi. Le service de communication de la présidence qui l'annonce indique qu'avant l'ouverture de ce sommet, le président Félix Tshisekedi est invité à participer au sommet de la Troïka de la SADC qui s'ouvre en début de soirée. Le chef de l'État devrait présenter la situation politique et sécuritaire du pays, ainsi que les déploiements de la SAMI-RDC. À l'issue de ces assises, le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe va succéder à son homologue angolais João Lourenço à la présidence tournante de la SADC. Par ailleurs, le 9e Conseil des ministres a été à la place du chef de l'État, présidé par la première ministre Judith Suminwa. L'épidémie des varioles de singes, monkeypox, a atteint des niveaux alarmants en République démocratique du Congo où plus de 15 000 cas et plus de 500 décès ont été signalés dans le pays depuis les débuts de l'année. Oxfam met en place une réponse immédiate, en particulier dans la province la plus touchée, l'Équateur. Dans un communiqué publié hier vendredi, Justine Tosugomis, directrice pays d'Oxfam pour la RDC, a déclaré, je cite, « La situation en Équateur est particulièrement alarmante avec plus de 320 décès déjà signalés. Face à l'urgence de la situation, notre priorité est d'agir rapidement et efficacement pour protéger la santé et le bien-être des populations touchées. Avec l'appui de tous, nous pouvons endiguer la propagation de la maladie et protéger ceux qui sont les plus vulnérables. » Fin de citation. Blaise Makassi pour d'autres détails.
En étroite collaboration avec les autorités nationales et les partenaires, Oxfam vise à soutenir environ 80 000 personnes à travers Mbandaka, Bikoro, Bolenge, Tondo et Ingende en les sensibilisant à l'hygiène et à la prévention, à l'eau propre et à l'assainissement tout en renforçant l'engagement communautaire et la préparation des institutions de santé dans la province, note les communiqués. Notre réponse s'appuie sur la longue expérience d'Oxfam en matière de santé publique et des programmes d'assainissement en Équateur depuis Ebola. Nous travaillerons avec les communautés locales et nos partenaires pour fournir des kits d'hygiène et d'assainissement et des informations sur la manière de prévenir la contamination virale, a ajouté la directrice pays d'Oxfam pour la RDC. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que l'épidémie de la variole du singe a déjà touché plusieurs pays africains et constitue une urgence de santé publique de portée internationale.
Pour sa part, le ministre congolais de la Santé, de l'Hygiène et du Bien-être Social a présenté un rapport alarmant sur l'épidémie de variole du singe en RDC et a appelé l'ensemble de la communauté à changer de comportement pour contrer la propagation de l'épidémie. Entre-temps, le monkeypox ne cesse de prendre de l'ampleur avec plus de 4000 cas au sud Kivu. Cette province est aujourd'hui la deuxième la plus touchée par cette maladie en RDC. Les 29 zones de santé sur les 34 que compte le Sud Kivu sont touchés par la variole de singe. Le gouvernement provincial, avec l'appui des partenaires, est à pied d'œuvre pour faire face à cette épidémie. Rachel Kiesimbango pour les détails.
De ces 29 zones de santé, 4 viennent en tête, notamment la zone de santé de Nyangezi, avec plus de 800 cas, suivie de celle de Miti-Muresa, de Kamituga et celle d'Uvira. Et c'est dans ces zones que les efforts sont concentrés dans la province. Dr Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé au Sud Kivu.
Sur les 15 000 cas, nous avons plus de 4 000, nous occupons la deuxième position. Et pour le moment, la grande concentration, c'est dans les 4 zones de santé, mais nous sommes en train de nous battre pour essayer aussi d'arrêter le cas dans les autres zones.
Il importe que la population se présente au plus vite dans un hôpital en cas de symptômes du monkeypox, notamment des éruptions cutanées ou des démangeaisons. La prévention, c'est l'hygiène du corps.
La bonne prévention, c'est d'abord l'hygiène corporelle en général, le lavage correct des mains avec du savon comme d'habitude, et éviter aussi de partager les habits ou la literie, donc les lits de malades ou de quelqu'un qui a les signes de monkeypox. Nous devons être très prudents. Chacun doit chaque fois se contrôler et prendre des décisions pour aller à l'hôpital.
Signalons que le monkeypox se contamine également par voie sexuelle et aussi de la mère grosse au fœtus. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Je le disais dans les titres, en Ituri, environ 1500 familles des déplacés de guerre ont déjà bénéficié de l'appui des humanitaires pour la construction des abris dans leur lieu de refuge. Ces chiffres ont été publiés hier, vendredi, en marge des activités de la journée de l'aide humanitaire organisée par le sous-bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC à Bunia. C'est dans le cadre du projet Solution durable pour l'intégration locale des déplacés et qui ont exprimé les besoins. La plupart des bénéficiaires entreprennent des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Isaac Remoyope.
Les bénéficiaires de ces projets solutions durables ont été identifiés dans les sites de l'ISP Bunia, Kigonze, Telega, Bembei, Tsere et Mbala. Parmi eux, cette femme d'environ 50 ans qui a 9 enfants, qui passait la nuit dans un abri de fortune qui les exposait à certaines maladies, dont la pneumonie et le paludisme. Grâce aux humanitaires, elle vit actuellement dans une maison de 3 chambres et salons et ses enfants ne tombent plus malades. Elle exprime sa satisfaction.
Depuis ces projets, notre vie s'est améliorée. Nous ne souffrons plus. Depuis qu'on a construit des abris pour nous, les maladies ont disparu. Nous dormons très bien, contrairement au temps passé. On passait la nuit dans des cases en paille. Tout va bien. On mange aussi bien.
La plupart de ces déplacés qui ont opté pour l'intégration locale ont développé des moyens de résilience grâce à l'appui des humanitaires, ce qui permet d'améliorer leurs conditions de vie. Selon l'ONG ADES, un des partenaires qui exécute ces projets, la troisième phase est en cours, Violet Akuir.
Nous allons entamer avec la troisième vague. Nous attendons juste que nous puissions avoir les listes pour commencer les activités. L'argent est là pour 540 ménages.
Signalons qu'environ 80% des déplacés à Bounia et sa périphérie ont opté pour l'intégration locale à cause de la persistance de l'insécurité dans leurs milliers d'origine depuis environ 7 ans. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le gouverneur intérimaire plaide pour la prorogation du programme quinquennal Ensemble pour la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC, espère en sigle. Le général-major Peter Chirimwami l'a dit au sortir de la réunion du comité de pilotage du dit programme jeudi à Goma. En exécution au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri depuis 2020, ce programme vise la promotion de la gouvernance sécuritaire participative dans l'Est du pays. C'est ce que nous dit Bernard Danyangi.
En exécution depuis septembre 2020 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que l'Ituri, ce programme arrive à son terme d'ici fin 2024. Alors qu'il a été conçu pour améliorer la stabilité et la gouvernance dans l'Est de la RDC, le programme espère s'est buté à plusieurs défis, notamment la sécurité dans sa zone d'exécution. Du fait qu'il risque de s'arrêter au moment où la MONUSCO, qui est un autre grand partenaire dans le programme de stabilisation, se retire elle aussi de ces mêmes provinces, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu plaide pour sa prorogation. Général-major Peter Chirimwami.
En essayant de voir les défis, on s'est dit qu'il reste encore quelque chose à faire. Si tout dépendait de nous, on pourrait souhaiter que ce programme se poursuive, non seulement parce qu'il n'a pas terminé son programme, mais aussi nous nous confrontons à une période où la MONUSCO prépare son retrait. Et donc, la fin du programme, le retrait de la MONUSCO, ça risque de nous fragiliser. Et donc, on devrait maintenir un pilier qui va faire une sorte de transition de l'autre pour qu'on puisse faire un transfert civilisé de pouvoir.
Pour rappel, ESPER est un programme du gouvernement congolais qui est exécuté par le consortium Venge International et Cordaid sous financement du Rhum des Pays-Bas dans les trois provinces précitées, Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Béni se réinvente. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Malgré plus d'une décennie d'insécurité, cette ville refuse de céder à la peur. Des quartiers émergent, des maisons s'élèvent et les activités commerciales battent leur plein, témoignant de la force et de la résilience de ses habitants. Grâce à l'électrification par la société énergie du Kivu et NK, l'économie locale prend un nouvel élan, créant des opportunités là où régnait l'insécurité. C'est un reportage signé Martial Papimoukeba.
À Béni, l'insécurité persiste, mais la ville se transforme. Des maisons modernes émergent, symbolisant l'espoir et la résilience de ses habitants. On ne peut pas se laisser abattre, témoigne cet habitant.
Tu sais, on ne peut pas se laisser abattre. On ne peut pas aussi se laisser dans la souffrance. Ces mécanismes de résilience automatique développés, c'est comme ça que pendant qu'on est dans cette situation tumulte, mais tu trouves du développement, tu trouves des constructions, tu trouves des investissements.
L'électrification de la ville de Béni, réalisée il y a 4 ans par l'entreprise privée Énergie du Kivu NK, a joué un rôle clé dans cette dynamique en favorisant l'essor des petits commerces. Queen Bendela, tenancière d'un restaurant, explique.
Le courant NK a beaucoup contribué. Je fermais à 21h, mais là, les week-ends, je peux facilement arriver à 1h, 2h. Là, déjà, ça impacte et ça a beaucoup aidé à garder des vivres frais et aussi les boissons alcooliques.
Malgré les défis, chaque nouvelle construction à Béni est perçue par la population locale comme une victoire contre l'insécurité. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et bouclons ce chapitre par cette réaction d'ensemble pour la République. Le parti cher à Moïse Katumbi dénonce ce qu'il qualifie de massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Pour ce parti politique, ce qui s'est passé à Kilwa dans le territoire de Pweto est un massacre de trop. Il en appelle à une justice équitable pour tout citoyen, car certains agissent en toute impunité, tandis que les autres sont sauvagement abattus. On écoute Dieudonné Bolingenteinge, secrétaire général d'Ensemble pour la République, dans cet extrait choisi par Jean Gantou.
Où va notre pays avec ces actes répétés de barbarie orchestrés par les forces de l'ordre sur les citoyens? Lorsque la milice du parti au pouvoir, affublée des qualificatifs de forces du progrès, sème la terreur dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Kasumbalesa, il n'y a pas de recours à la même violence contre elle, mais plutôt des petits bricolages d'arrestation et dernièrement un procès théâtral dont l'issue en termes de diversion ne trompe personne. Sommes-nous toujours dans notre pays, un pays où tous les Congolais sont égaux, bénéficiant d'une égale protection des institutions et de la justice? Les Congolais ont des yeux pour voir. Le silence de nombreux compatriotes n'est pas une prime à l'irresponsabilité des dirigeants ni une adhésion à la décadence de la nation. Rappelons aux autorités de notre pays de ne pas réduire les fonctions publiques qu'ils occupent à des simples positions de jouissance. Il est plus qu'urgent qu'ils retrouvent le sens de leurs devoirs et assument leurs responsabilités, car c'est le peuple qui aura le dernier mot.
Autre nouvelle, le cadre de concertation de la Société civile pour l'observation électorale, CDCE, a présenté hier, vendredi à Kinshasa, son analyse du processus électoral de décembre 2023. Selon le point focal du CDCE, cette démarche, basée sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des cycles précédents, vise à innover des réformes nécessaires pour les futures élections en RDC. Le père Rigobert Minani Biouzo recommande une refondation totale du prochain processus sur des bases éthiques, de transparence et d'honnêteté. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous, comme cadre de concertation de la société civile pour l'observation électorale, nous avons opté de faire un travail d'analyse. En fait, au fur et à mesure que le processus électoral avançait pour chaque étape, pour dégager les forces, les faiblesses, les opportunités, mais aussi le danger que ça faisait courir au processus électoral. Pour nous, la première chose, c'est la question éthique. On ne peut pas accepter d'avoir une commission électorale qui est dirigée par des personnes qui sont totalement insensibles à toutes les remarques de missions d'observation électorale. Les personnes chargées de conduire le processus électoral doivent avoir une éthique qui est vraiment approuvée par tout le monde. C'est qu'il faut, au niveau du processus lui-même, donc du début jusqu'à la fin, l'on garantisse toutes les parties prenantes du processus électoral arrivent à un consensus minimum sur la crédibilisation et la crédibilité du processus électoral. Sinon, alors, on répète exactement la même chose.
En sport, Maniema Union débute la compétition ce samedi face à l'équipe zimbabwéenne des Ngezi Platinum. Un match comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Papi Kimoto, coach de Maniema Union, estime que son effectif est prêt pour aborder cette rencontre malgré le manque de compétition qui peut l'handicaper. Il a dit en conférence d'avant-match tenu hier vendredi, Papi Kimoto, dans ses propos recueillis par la direction de communication de Maniema Union.
On a fait une très bonne préparation. On a mis tous les chances de notre côté pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et maintenant, c'est demain qu'il faut montrer tout ça. Donc, on est prêt pour ce match-là de demain. On a eu des informations sur cette équipe-là. Ils ont un avantage par rapport à nous parce qu'ils sont en plein championnat, pas nous. Nous, on a misé sur les matchs amicaux pour mieux préparer ce match. De toute façon, nous, on a gardé notre effectif. Et bien évidemment que le championnat n'a pas commencé, ça nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Mais on a multiplié les matchs amicaux pour être prêts pour compétir. C'est pour ça qu'on est allé en Tanzanie et retourné à Kinshasa, multiplier les matchs amicaux. Mais tout le monde le sait que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Mais néanmoins, on a un bon groupe qu'on a commencé ce projet depuis 3 saisons. Et ces groupes restent les mêmes. Donc on garde la majorité de l'équipe qui est homogène. J'ose croire qu'ils vont répondre aux attentes que les peuples congolais attendaient.
Actualité internationale.
L'inquiétude et les interrogations continuent de monter dans le monde à propos de l'épidémie des monkeypox après le déclenchement mercredi dernier par l'OMS de son niveau d'alerte le plus élevé au niveau international en raison de la forte augmentation des cas liés à cette épidémie en Afrique centrale. Alors que les premiers cas hors d'Afrique ont été détectés en Suède et au Pakistan cette semaine, c'est maintenant au tour du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de tirer la sonnette d'alarme. L'agence de l'Union européenne en les pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen à se préparer en vue d'une hausse des cas de Mpox.
L'invité.
Notre invité, c'est Niembo Katansi Taylor, administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Kalemie. Il évoque les difficultés qu'éprouve l'hôpital et la morgue suite au manque du courant de la SNEL dans la ville de Kalemie. Niembo Katansi Taylor s'entretient avec Paul Munanga.
Niembo Katansi Taylor, bonjour.
Bonjour.
Depuis lundi, il y a un problème qui se pose avec l'énergie électrique de la SNEL qui a été interrompue parce qu'il y a une panne au niveau de la centrale de Bendera. Et ici, à l'hôpital général de référence, comment est-ce que vous vous débrouillez?
Il y a une organisation interne au niveau de l'hôpital général de référence de Kalemie. Nous avons un peu de groupe électrogène, ce qui fait que nous avons des horaires que nous sommes en train de nous organiser. Là où nous allumons le groupe, par exemple, tous les avant-midi, nous allumons le groupe. Et là, on prend en charge tous les cas des radios, donc d'imagerie générale. Il y a la radio, il y a l'ECG, il y a l'échographie, ainsi de suite. Il y a les cas des malades qui doivent passer au niveau des laboratoires. Il y a d'autres examens qui doivent se faire, même de certaines consultations. Là, le groupe électrogène de l'hôpital est allumé tous les avant-midi. Et au même moment, tout le monde profite de faire quelque chose. Comme vous le savez, selon notre contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer, nous sommes une institution publique de l'État qui n'a pas les caractères commerciaux et où toute la population doit venir et bénéficier des soins médicaux. C'est ainsi que nous nous débrouillons par les moyens des bords, c'est-à-dire nous payons un peu du carburant pour alimenter notre groupe électrogène. Et de là, quand on allume le groupe électrogène, on arrive quand même à prendre la responsabilité et tous les actes des soins médicaux.
Au cas où il y a des malades qui sont sous oxygène, donc à la réanimation, comment est-ce que vous faites?
Ça dépend de la qualité du degré de réanimation. S'il y a les réanimations manuelles, on peut les appliquer, mais si, par exemple, il faut maintenant recourir aux appareils qui doivent être obligatoirement être connectés à l'énergie. Dans ce sens, nous mettons en place un système de garantir le malade aussi longtemps qu'il est encore sous oxygène. Dans ce sens, le groupe continue à fonctionner. Vous allez comprendre, peut-être qu'il peut être le seul malade parce qu'il est connecté, il est branché à l'appareil d'un concentrateur d'oxygène. Le groupe va continuer à tourner jusqu'à ce que le moment pourra venir. Et c'est au détriment maintenant, contradictoirement parlant, par rapport à l'organisation de l'horaire, là où nous devons alimenter les groupes. C'est dans ce sens que nous essayons un peu de prendre en charge les malades qui sont sous oxygène.
Lorsqu'il y a des cas des urgences, par exemple une intervention chirurgicale, donc le groupe doit être allumé.
Oui, effectivement. C'est pourquoi il arrive des fois qu'en dehors d'autofinancement de paiement de carburant, on assure aussi les transports puisque le groupe est sous contrôle d'un agent qui est commis à ce niveau-là. Dans ce sens, s'il y a une urgence, ainsi que la communication par le téléphone, on fait venir le personnel qui va arriver. L'institution assure son transport aller et tout jusqu'à ce que les malades ou bien l'intervention chirurgicale, ça peut être une femme qui vient juste pour une intervention chirurgicale, par exemple la césarienne, en cas de souffrance fœtale, on allume le groupe afin de prendre en charge le malade, puisque le médecin aussi ne peut pas travailler avec des petites lampes là. Et il doit travailler dans une lumière qui est beaucoup plus appropriée. Et c'est dans ce cadre-là. Mais au cas où il n'y a pas ça, nous travaillons maintenant avec des lampes torches, des petites lampes torches artificielles. Là, on paye des piles. Mais dans le cas des urgences, c'est comme le cas de l'oxygénothérapie. Le malade là qui est au bloc ou qui est dans une urgence, qui est à la maternité, fera bénéficier des autres par rapport à la lumière et du courant électrique.
Et qu'en est-il de la morgue qui est juste à côté de l'hôpital général de référence de Calémie?
Moi, je pense que la morgue, d'ailleurs, c'est un aspect dont on est en train de vouloir bien parler ici. La morgue, c'est un service médical. C'est une conservation au froid. Il y a beaucoup d'actes médicaux qui doivent se passer là-bas. Mais dans le cas échéant, la morgue est sous la gestion de la mairie. Nous sommes dans les pourparlers pour voir comment est-ce que nous pouvons vraiment recadrer cette situation-là. Toutefois, pour l'ordre de la gestion de la morgue, la mairie sollicite afin que nous puissions leur envoyer du courant.
Vous envoyez du courant?
Oui, nous envoyons du courant.
Lorsque vous interrompez les groupes électrogènes, il n'y a pas aussi du courant au niveau de la morgue?
Oui, effectivement. Lorsque le groupe n'est pas fonctionnel, partout, il n'y a pas du courant.
Ne craignez-vous pas la putréfaction des corps?
La putréfaction du corps, c'est ça. C'est pourquoi il y a des mécanismes de gestion des corps. Par exemple, lorsque nous pensons que la mairie elle est bien informée, lorsqu'il y a des ordres circulaires par la SNEL, c'est-à-dire systématiquement, les gestionnaires de la morgue doivent interpeller, doivent appeler les membres responsables des corps qui sont là pour évacuation de ces corps pour l'enterrement. Là, c'est une haute responsabilité et totale de la mairie.
Niembo Katansi Taylor, je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Alain Irung et mis en onde par Jean-Claude Ntsiala. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.